Radio Prague, les informations. Bonjour. Politique régionale européenne et les régions tchèques auront encore accès aux fonds structurels après 2013. Gastronomie, une étoile Michelin a été décernée à deux chefs cuisiniers tchèques et puis enfin sorti en France ce mercredi du film tchèque Alois Nebel. À l'exception de Prague, les 13 autres régions tchèques auront encore le droit, après 2013, de bénéficier des crédits en provenance des fonds structurels européens. En effet, entre 2007 et 2009, leur produit intérieur brut par habitant est resté inférieur à la limite de 75% de la moyenne de l'Union européenne. Ainsi, selon le principe de fonctionnement de la politique régionale, aussi appelée politique de cohésion, elles sont considérées comme des régions en retard de développement. L'aide est programmée sur une période de 7 ans. L'information a été communiquée ce mercredi par l'Office tchèque des statistiques qui s'est référé aux données d'Eurostat. Le montant de l'aide qui sera consacré à la République tchèque pour la période 2014-2020 n'est toutefois pas encore connu. Selon le ministre du Développement régional, la somme totale sera toutefois inférieure à celle pour la période 2007-2013, pour laquelle la République tchèque peut bénéficier d'un peu plus de 26 milliards d'euros. Prague occupe la 7e place du classement des régions de l'Union européenne en fonction de leur produit intérieur brut par habitant, exprimé en standard de pouvoir d'achat. Prague est donc la 7e région la plus riche de l'Union européenne. C'est ce que rapporte l'Office européen de statistique Eurostat, qui se base sur des chiffres datant de 2009. Inter-London arrive en tête de ce classement avec 332% de la moyenne européenne. Le PIB par habitant de la région de Prague atteint lui 175% de la moyenne. La région la plus riche parmi les pays d'Europe centrale et de l'Est est celle de Bratislava en Slovaquie. La Commission nationale d'accréditation a porté plainte contre le ministre de l'Éducation, Josef Dobesch, suite à la décision de ce dernier de prolonger l'accréditation de la faculté de droit de l'Université de Bohême de l'Ouest à Plzeň jusqu'en 2016. Par cette décision, le ministre contrecarre celle de la Commission d'accréditation, qui avait décidé en début d'année de la fermeture de la faculté de droit de Plzeň en octobre 2012. La Commission veille entre autres à la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. Selon le ministre, la prolongation de l'accréditation est le seul moyen de faire en sorte que les 1800 étudiants de la faculté puissent finir leurs études. La faculté de droit de Plzeň est, rappelons-le, dans le viseur des autorités depuis l'automne 2009 et la révélation d'un vaste scandale de plagiat et de falsification de diplômes. Gastronomie, le guide Michelin a honoré deux chefs cuisiniers tchèques dans son édition 2012. Roman Paulus du restaurant Alkron et Oldřich Sahajdak de la dégustation bohème bourgeoise ont obtenu une étoile. Il s'agit des deux premiers chefs tchèques récompensés. Leur restaurant se trouve à Prague. Culture, c'est ce mercredi que le film d'animation tchèque Alois Nebel sort en salle en France. Plusieurs articles de presse pour le moins élogieux révèle cette sortie, dont le quotidien Le Monde, qui le qualifie dans son titre de cauchemar animé surgi de l'histoire tchèque, rappelant que la technique utilisée pour réaliser ce film, la rotoscopie, est un procédé presque aussi vieux que le cinéma. Pour l'hebdomadaire L'Express, ce film, pour le moins inattendu, a de faux airs de western et son austérité apparente se révèle bien vite être sa principale qualité. Un mot de sport encore et de tennis. Les deux duels franco-tchèques qui figuraient au programme de la journée de mardi du tournoi d'Indian Wells, premier Masters 1000 de la saison, ont tourné à l'avantage des joueurs français. Chez les hommes, Joe Wilfried Tsonga, 6e mondial, a disposé de Radek Štěpánek, 28e mondial en 3-7 et s'est ainsi qualifié pour les 8e de finale. Chez les femmes, Lucie Šafářová a, elle, été éliminée en 8e de finale par Marion Bartoli en 2 manches. Il ne reste donc plus qu'un joueur tchèque encore en lice en Californie, Tomáš Berdych, qui se reposait ce mercredi à l'Espagnol Nicolas Almagro, 12e mondial, pour une place en quart de finale. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable, mais un peu plus ensoleillé, toutefois que mercredi, qui règne sur l'ensemble du territoire. Ce jeudi, jour de la fête des Ida, les températures sont stables et varient entre 7 et 11 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée tout de suite par Magdalena Rosinkova.
Faits et événements en République tchèque. Bienvenue à l'écoute de Radio Prague et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Dans ce magazine d'actualité, nous parlerons des problèmes liés à l'obtention des visas pour les étrangers des pays tiers désireux d'étudier en République tchèque. Nous nous déplacerons ensuite à Ostrava, en Moravie du Nord, où est actuellement exposé le célèbre tableau de František Kupka, La forme du bleu. Au mois d'avril, il sera mis en vente aux enchères à Prague, près de 2 millions d'euros. Voilà le prix d'ouverture, qui est un prix record en République tchèque. Dans notre rubrique historique, nous reparlerons de la charte 77 et de son héritage. Ce sera avec l'historien Jiří Hnilica. Très bonne écoute à toutes et à tous. Trois mois au minimum, souvent cinq, c'est le temps que doivent attendre les étudiants étrangers issus de pays non membres de l'espace Schengen pour pouvoir obtenir un visa et suivre leurs études en République tchèque. Un état de fait contre lequel s'insurgent les recteurs des universités et les ONG. Anna Kubišta.
Depuis plusieurs mois, le ministère de l'Éducation se plaint de voir que de nombreux étudiants engagés dans des programmes internationaux doivent attendre des mois avant d'obtenir un visa leur permettant de séjourner en République tchèque. Une situation que dénoncent également les universités, de même que des organisations non gouvernementales qui voient une forme d'isolation de la République tchèque par rapport au réseau des échanges internationaux. Afin de pouvoir étudier six mois ou un an, un étudiant issu d'un pays situé hors de l'Union européenne et surtout hors de l'espace Schengen, doit présenter son passeport, un justificatif prouvant qu'il a été accepté dans l'école de son choix, une autorisation de séjour, mais aussi prouver qu'il peut subvenir à ses besoins. L'administration tchèque exige également parfois un extrait de casier judiciaire ou encore un certificat médical. De même, l'étudiant doit pouvoir prouver qu'il est couvert par une assurance voyage. Le processus d'obtention d'un visa temporaire peut ainsi durer de 3 à 5 mois. Il n'y a pas que les étudiants à partir de la lenteur de la machine administrative, les universités, elles aussi, se plaignent des difficultés qu'elles rencontrent, car tous les documents doivent être assermentés. Katarzyna Mudrova, de la section internationale de la Haute École d'économie de Prague.
Pour nous, le fait de devoir faire assermenter les documents par un notaire est une véritable charge. Parfois, il est possible de prendre plusieurs dossiers à la fois et de le faire en une fois, mais la plupart du temps, c'est en fonction du moment où les étudiants envoient leur dossier et souvent, il reste peu de temps avant la date limite. Nous-mêmes, nous apposons notre sceau qui devrait suffire et malgré tout, il faut encore passer par le notaire.
En outre, copies conformes et documents assermentés coûtent 30 couronnes. Les écoles déboursent donc des sommes importantes afin de pouvoir traiter les dossiers de leurs futurs étudiants. Richard Hindels est le recteur de la Haute École d'économie de Prague et vice-président de l'organisation des recteurs. Pour lui, la situation doit être prise au sérieux.
Pour nous, le vrai problème, c'est la durée interminable pour l'obtention d'un visa pour les étudiants. Ceux-ci finissent parfois par choisir une autre école lorsque le visa est plus facile à obtenir si nous voulons nous ouvrir au monde, ce qui est un des objectifs de base de l'université. Pas seulement chez nous, il faut faire quelque chose. Dans notre comté, je comprends que l'État ait ses limites.
Par la voix du ministère de l'Intérieur, l'État, pour sa part, se défend et argue que certaines des dernières conditions d'obtention d'un visa s'appliquent à tout un chacun et ne visent pas uniquement les étudiants. Il rappelle que la durée de traitement des dossiers va de 60 à 90 jours selon le type de visa. Les nombreux documents que doivent également fournir les universités, comme par exemple un certificat lié au logement, ont pour but, d'après lui, de garantir aux étudiants un certain niveau de vie. En attendant, il n'en reste pas moins que dans certains cas, des étudiants ayant obtenu un visa de courte durée n'ont pas pu finir leur semestre d'études faute d'avoir eu leur visa de longue durée. Comme en France, où à l'heure actuelle, de nombreux étudiants étrangers se voient refuser un permis de séjour et de travail après avoir fait leurs études, la République tchèque, elle aussi, pourrait se voir privée à terme de cerveaux qui préféreront mettre le cap vers d'autres destinations plus accueillantes.
La forme du bleu, Tvar Modré, une des toiles les plus précieuses du peintre abstrait František Kupka, est exposée à partir de ce mercredi et jusqu'au 8 avril prochain à la galerie d'Ostrava, en Moravie du Nord. Une dernière occasion, peut-être pour le grand public, de voir ce tableau créé entre 1913 et 1924 en France, car à la mi-avril, il sera mis en enchère à Prague pour un prix d'ouverture record en République tchèque de 45 millions de couronnes, environ 1 800 000 euros. La toile a été déballée et installée sous les yeux des journalistes par le directeur de la galerie d'Ostrava, Jiří Júza, en personne. Provenant de la collection privée du mécène du peintre Jindřich Valdes, le tableau est dans un excellent état et n'a jamais été restauré. Pour les besoins de l'exposition, il a été nouvellement encadré et muni d'une vitre de protection. Vladimír Lekeš représente la galerie pragoise Adolf Loos, qui a prêté la toile pour l'exposition et organise également sa vente aux enchères.
Le tableau est appelé dans le monde de l'art la forme du bleu ou le bleu. Il représente des verticales bleues et violettes sur une base horizontale. De cette base jaillissent aussi des éclairs blancs et jaunes. Kupka disait que la couleur bleue devait avoir une forme droite et allongée, à la différence des teintes rouges ou oranges qu'il voyait comme des courbes. C'est ainsi que ces couleurs apparaissent sur ces tableaux plus récents.
Chef-d'œuvre de la période abstraite qui a fait la renommée de František Kupka, la forme du bleu a été exposée pour la première fois en 1924 à Paris. Elle fut ensuite achetée par Jindřich Valdes, un riche entrepreneur tchèque d'origine juive, ami et mécène de Kupka, Vladimír Lekeš.
Valdes avait acheté le tableau à Kupka personnellement. Il l'a placé dans le salon de sa villa pragoise, située dans le quartier de Vinohrady, rue Americká, jadis Kramierova. La toile a ensuite été replacée dans la chambre de la fille de Valdes, Andulka, qu'il aimait beaucoup. La famille Valdes était très fortunée. Elle possédait l'usine de fabrication de boutons à pression Kohinoor, une des plus importantes usines dans la Tchécoslovaquie de l'entre-deux-guerres, avec celle de Batia. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, la famille a réussi à s'enfuir aux États-Unis, à l'exception de Jindřich Valdes, qui a été interné. Il est mort en 1941, la collection ainsi que tous les biens des Valdes ont été confisqués par les nazis et ensuite nationalisés par l'État tchèque. Les héritiers du mécène ont pu les récupérer en 1996.
La forme du bleu sera donc vendue aux enchères au palais Kaiserstein à Prague, de même que le buste en bronze de l'épouse du peintre Eugénie, qui est également exposée à Ostrava et serait la seule sculpture de František Kupka conservée jusqu'à nos jours. Le prix d'ouverture du tableau, 45 millions de couronnes, est ici exceptionnel et constitue le double du prix d'un autre tableau de Kupka qui détient pour l'instant le record de vente en République tchèque. Vladimír Lekeš.
Nous trouvons ce prix adéquat car les tableaux de Kupka datant de sa période abstraite n'existent presque plus dans des collections privées. Je ne suis pas capable d'estimer à quel prix le tableau pourrait être vendu à l'étranger. Il n'empêche que les œuvres abstraites des contemporains de Kupka, donc de Kandinsky, Malevitch, Mondrian ou Delaunay, si jamais elles étaient mises aux enchères, seraient vendues à des prix 10 fois plus élevés. Je suis alors persuadé que pour un collectionneur ou investisseur potentiel, c'est une occasion unique car dans quelques années le tableau aura une toute autre valeur.
La toile de František Kupka, la forme du bleu, a déjà été exposée environ 25 fois en France, en Autriche, en Suisse, aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays encore. Jusqu'au 8 avril prochain, il est donc montré à la galerie d'Ostrava. Plus de détails sur le site de la galerie au www.gvuo.cz. À l'occasion de la semaine de la charte 77 qui commémore à Prague jusqu'au 18 mars les 35 ans de sa rédaction, nous vous proposons aujourd'hui dans notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'histoire un entretien avec l'historien Jiří Hnilica qui revient au micro de Paul Bauer sur l'héritage de la charte 77.
Chapitre de l'histoire.
Parler d'un héritage dans la société actuelle, d'un héritage du passé communiste, c'est toujours un peu compliqué parce que j'ai l'impression que la société tchèque même, elle se positionne difficilement vis-à-vis à cet héritage qui est à double tranchant, notamment en ce qui concerne, par exemple, la personnalité de Václav Havel, où on peut le voir aussi avec la charte 77. Quel est en fait ce message de ces événements qui se sont déroulés à l'époque de normalisation? Donc je pense que l'héritage, il est à la fois symbolique, bien évidemment, il s'agit quand même d'un événement symbolique de la lutte contre le communisme, mais même cette lutte-là contre le régime totalitaire n'est pas bien définie.
Vous dites que c'est un héritage qui est à double tranchant. Pourquoi c'est à double tranchant? Pourquoi est-ce que la lutte contre le communisme, selon vous, n'a pas été assez bien définie?
Je pense qu'il y a tout un débat dans la société tchèque qui se déclenchait pas tout de suite après la chute du régime, mais dans la deuxième moitié des années 90. Et c'est en fait le débat sur l'anticommunisme même. Étant donné que, pendant l'époque communiste, la majorité de la société était dans cette zone, zone grise, qu'on l'appelle, il y avait plus qu'un million d'adhérents au Parti communiste, en quelque sorte, la majorité de la société s'est corrompue avec le régime, et du coup, de définir la lutte contre le communisme de telle manière claire que voici où commence la lutte ou un engagement anticommuniste et voici où commence la corruption par le régime, ça deviendrait très difficile pour la société même.
Et après 1990, est-ce que finalement le regard change complètement de la société, de la majorité de la société par rapport à ce mouvement qui s'arrête en 1992, au moment où les initiateurs principaux, ceux qui sont toujours en vie, considèrent que la lutte est finie, notamment en raison du fait que les droits de l'homme sont à nouveau respectés par la Tchécoslovaquie et puis par la République tchèque ensuite.
Je pense que le mouvement de la Charte 77, c'était surtout et avant tout un mouvement intellectuel. C'était jamais un mouvement de masse comme c'était par exemple la Solidarność en Pologne. Et du coup, la place d'un mouvement intellectuel, en quelque sorte, était même mise en cause dans la société tchèque après la chute du régime, que je le répète, dans la deuxième moitié des années 90, il y a des exemples très forts de Batora dont on a parlé avec en pancarte les intellectuels allaient au diable, etc. Donc on le voyait très bien avant le décès de Havel qu'en fait un intellectuel dans la société tchèque n'avait plus la même position qu'à l'époque communiste. Et il est évident que le mouvement de la Charte 77 en faisait partie, et son héritage aussi.
Du point de vue de la transmission en fait du message de la Charte après 1990, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de relais, que ce texte est suffisamment connu par les jeunes générations, notamment celles qui sont nées peu avant 89 ou juste après ?
Je pense qu'en général, il y a quand même, surtout dans la jeune génération, une montée d'intérêt pour tout ce qui était le communisme. Et autant plus que cette époque-là commence à être vraiment enseignée dans les lycées, dans les écoles. Donc, du coup, bien évidemment, ces chapitres, comme par exemple la Charte 77, en font partie. Après, quel est exactement le travail des professeurs du lycée de ces questions, ça, il faut voir plus en détail avec eux, parce que c'est quelque chose qui est vraiment un réel débat. Comment, en fait, qu'on peut résumer à une question, comment enseigner le passé communiste dans l'école actuelle? Donc, c'est un grand débat.
Parce que c'est une initiative qui revient aux professeurs et c'est pas encore, dans un programme officiel qui serait respecté par tous les instituteurs et par tous les professeurs d'histoire, c'est ça ?
C'est exactement ça. Je pense que c'est un peu heureusement. Heureusement, on n'a pas une seule possibilité comment enseigner le passé communiste, parce que après, ça deviendrait, en exagérant un peu, une autre idéologie. Mais c'est vrai que tout ce que fait, par exemple, l'Institut des études de Ustav pro studium totalitarnych regimów.
Oui, le régime pour l'étude des régimes totalitaires.
C'est en fait de proposer aux enseignants les matériaux qu'ils peuvent après utiliser. Et on voit très bien qu'en fait, la production de cet institut est très critiquée aussi par les historiens.
Est-ce que vous pouvez rappeler, par exemple, pourquoi ces recherches et ces travaux de l'Institut de l'étude des régimes totalitaires est critiquée dans la communauté des historiens aujourd'hui?
En fait, on les juge en général d'être trop précipités, d'être trop rapides. Donc, de contenant, des fautes d'orthographe et de manque de recul vis-à-vis des sujets.
D'accord. Parce que ce sont eux qui sont les principaux organisateurs et les initiateurs de la commémoration chaque année de la charte 77. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que cette semaine a de l'écho auprès des historiens, auprès des spécialistes de cette période, comme auprès de la société en général?
Je pense qu'en fait, cet écho, il est sensible notamment dans le public des spécialistes. Je veux surtout pas exagérer en écho pour toute la société tchèque. Et en fait, on y revient dans le passé, parce que la charte 77, c'était quand même un mouvement intellectuel, un mouvement restreint en soi-même, avec un grand message moral, mais qui s'est pas forcément diffusé dans toute la société. Parce que même le texte de la charte n'a pas circulé vraiment dans toute la société. Donc, en fait, c'est en quelque sorte logique.
Le discours de la charte était un discours porté par les intellectuels avant 89. Est-ce qu'il est toujours considéré comme tel après 90?
De toute façon, la charte 77, son message, c'était notamment de se battre pour les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux de l'humanité, on peut dire.
Les droits de l'homme.
On a l'impression,
oui.
Les droits de l'homme, du citoyen. Et on a l'impression qu'on est en train de vivre en une époque de liberté. Donc tout ça, c'est tout à fait naturel qu'on l'a déjà acquis. On est tous libres, on a tous nos droits, etc. Donc comme si, en fait, le quotidien, avec notamment la crise, etc., on peut l'appeler comme on veut, en fait, a dévié un peu, et la société n'a plus urgent besoin de discuter et de parler de ces choses comme les droits de l'homme.
C'était l'historien Jiří Hnilica dans le chapitre de l'histoire. C'est ainsi que s'achève le programme de Radio Prague, préparé par la rédaction française. Magdalena Hrozinková au micro vous remercie de votre attention. À demain.